faut pas alors que je dise beaucoup de bêtises. Hein.
Non, il faut pas.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans la maison de notre Dieu. Et il faut vraiment profiter au maximum de ce lieu bien-aimé, que ce soit pour s'instruire les dimanches ou à d'autres occasions, comme le frère l'a encore dit, pour ce qui est en train de se préparer pour le mois d'octobre, où on va être instruit sur des sujets spécifiques. Tant que Dieu nous donne la grâce de venir dans ces lieux, il faut venir pour se laisser abreuver par la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons remettre le moment du message entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Prions. Père éternel, nous te disons merci, car c'est toi qui nous as encore gardés durant cette nuit. C'est toi qui nous as mis aussi à l'esprit cette intime conviction que nous devons venir à l'Église pour être renouvelés. Renouvelés dans notre façon de penser, renouvelés spirituellement, car nous sommes aussi faits d'esprit, Seigneur, et si l'esprit ne s'alimente pas auprès de toi, vers qui ira-t-il trouver nourriture? Une nourriture pure et saine, une nourriture solide et surtout fondée sur ta parole. Une nourriture aussi qui s'enracine sur les expériences bibliques partagées par les frères et sœurs. C'est en vertu de cela que nous sommes bénis et c'est en vertu de cela que nous pouvons déjà te rendre gloire pour tout ce que tu as permis pour nous aujourd'hui. Seigneur, donne-nous aussi d'être attentifs à ta parole. Permets-moi, Seigneur, étant tout petit que je suis, de pouvoir parler de manière vraie de tes choses, que je ne puisse pas déformer le sens de ta parole, mais que je puisse plutôt être humble devant ta grandeur. Fais-nous beaucoup de bien, Dieu Tout-Puissant, que moi je puisse être tout petit et que toi tu puisses être toujours grand. Nous avons une pensée particulière aussi, Seigneur, pour les chrétiens qui se réunissent dans la peur ou qui se réunissent cachés parce qu'ils n'ont pas cette liberté que nous avons ici. Père de gloire, nous te rendons grâce pour cette liberté que tu nous donnes. Soutiens encore la foi de ces chrétiens qui sont éprouvés et qui sont obligés d'aller à l'église, Seigneur, en se cachant, sous peine de voir leur vie menacée. Béni sois-tu pour toutes choses, Seigneur, béni sois-tu pour tout ce que tu nous as déjà donné, pour la présence des uns et des autres. Fais-nous beaucoup de bien, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, je souhaiterais peut-être parler d'un sujet peu commun, que l'on n'a peut-être pas l'habitude de traiter, ou que moi, personnellement, j'ai peu entendu dans des églises. J'aimerais parler de l'échec, bien-aimés, de l'échec. Alors, je vais préciser justement ma pensée dans les lignes qui suivent par cette introduction. Donc, je pense que dans notre bas monde, il est assez simple de parler de réussite socio-professionnelle, parce que c'est ce qui sonne mieux aux oreilles des uns et des autres, plutôt que l'échec, qui a une connotation plutôt négative. Pourtant, il nous arrive fréquemment, et même aujourd'hui, si on analyse un peu notre parcours pour venir à l'église, nous avons sans doute à des degrés différents rencontré l'échec. L'échec, d'un point de vue général, est quelque chose qui nous fait mal, quelque chose qui nous affecte, une chose par laquelle on ne veut pas passer, on souhaite surtout l'éviter, parce qu'on a aussi du mal à gérer les échecs. L'échec peut nous déstabiliser à un tel point où on a du mal à s'en remettre. On est en quelque sorte déboussolé. Et pourtant, l'échec existe bel et bien, on ne peut pas le soustraire de notre existence. L'échec est là, elle est présente, mais la seule chose que l'on peut généralement faire, c'est de s'efforcer de réduire sa fréquence d'apparition dans notre vie. C'est pour toutes ces raisons générales que je nous propose ce matin de parler de l'échec, mais plutôt d'un point de vue victorieux, triompher de l'échec. Tel est le sujet d'aujourd'hui. Et le découpage que je propose à cette étude se fait plutôt sous quatre étapes. Premièrement, nous allons rappeler la définition de l'échec. On verra aussi par cela qu'il existe des petits échecs, mais aussi des grands échecs. Mais en tout cas, beaucoup de choses que l'on fait ici-bas, que l'on ne considère pas forcément comme des échecs, sont au fait des échecs par rapport à la définition de l'échec. Puis nous allons aussi parler de la perte d'estime de soi. On doit vraiment faire attention à cela parce que l'échec bouleverse beaucoup nos émotions, et dans ce bouleversement de nos émotions, on a tendance aussi à se dégrader, avoir une image très négative de nous. C'est pour ça que j'ai choisi aussi de parler de cela dans cette étude. Puis nous allons analyser l'échec pour mieux le digérer, essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on a pu faire, est-ce que nos ressources étaient bien adaptées, est-ce que c'était plutôt une entreprise que l'on pouvait supporter au regard de nos capacités humaines. Est-ce qu'on a aussi suivi, j'allais dire, le bon déroulement d'un projet, par exemple parler autour de nous, et puis surtout avoir l'avis et puis le soutien de notre Dieu. Et ensuite, en dernière étape, donc la quatrième, nous allons voir un peu comment l'on peut rebondir sur l'échec et puis aller plutôt de l'avant, au lieu de rester dans une situation de défaite perpétuelle. Puis en guise de conclusion, on va prendre quelques conseils pratiques et tirés de la Bible que nous pourrons appeler en quelque sorte le retenant d'aujourd'hui. Alors la définition de l'échec, on aborde le développement de notre étude. Notre célèbre dictionnaire, le Larousse, nous fournit ceci. Il nous affirme que l'échec est plutôt le résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise. Il se traduit aussi et il est aussi le manque de réussite. Au mot échec, on associe généralement défaite, insuccès, revers. Et parmi les phrases que nous avons l'habitude d'entendre, nous pouvons citer ceci, subir un échec. Mais d'autres personnes aussi qui ont sans doute plus d'expérience que moi et qui ont un point de vue plus élargi, je pense notamment à Michèle Langour, qui est une journaliste et puis qui a ouvert un blog dans lequel, enfin un site internet, dont l'adresse du site, donc l'URL est réussir ma vie. Elle dit ceci au sujet de l'échec. Vous avez raté un examen. Donc au fait, on va voir plusieurs situations pour cette première partie définition de l'échec, parmi lesquelles on va sans doute se retrouver. Vous avez raté un examen, un concours, une entreprise, une expérience professionnelle. Vous venez d'essuyer un échec sentimental ou amical, mais on se pose la question comment on peut rebondir, comment on peut arriver à mieux gérer la chose. Et on a une expérience qui nous est rapportée ici. Quand j'ai eu le résultat du concours, donc c'est un monsieur qui s'appelle Adrien, donc il raconte, quand j'ai eu le résultat du concours, j'étais anéanti, raconte Adrien, candidat au très sélectif concours de pilote de ligne d'Air France. La réponse négative pour ce stage m'a complètement abattu, témoigne Claudia pendant 2 jours. J'ai été incapable de réagir, comme paralysé par l'échec. Des fois, on se lit aussi, et il y a un ami chrétien qui m'avait dit autre chose, mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Et lui de dire, mais pourquoi ça ne t'arriverait pas ? Tu es qui pour que ça ne t'arrive pas ? Des fois, dans nos façons de réagir, c'est comme si on voulait juste que ça arrive aux autres et pas à nous. Mais lorsque ça nous arrive, la Bible aussi nous fournit des repères pour mieux gérer la situation. Seuls ceux qui n'ont jamais connu d'échec ne peuvent comprendre ce que vous ressentez. Mais nous ne connaissons pas la vie des uns et des autres. Et on peut aussi avoir cette tendance facile d'envier les uns et les autres. Non, il faut plutôt se regarder soi-même et puis essayer de voir aussi ce qui a conduit justement à l'échec. Abattement, colère, tristesse, si ce n'est pas notre premier échec, c'est encore plus dur parce qu'on a l'impression que tout nous réussit. Et donc, lorsqu'on échoue d'une certaine façon, on est complètement perturbé. Mais la bonne nouvelle, et ça c'est un ancien ministre qui le dit, un ancien ministre français, du nom de Michel Giroud, qui était ministre du Travail, il affirme ceci. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul à vivre cela. Il n'y a pratiquement jamais de parcours de vie sans échec. Donc aime à dire ce monsieur Michel Giroud, ancien ministre du Travail, et directeur général de la Fondation de la Deuxième Chance. Contrairement à une tendance culturellement très répandue chez nous en France, il ne faut pas considérer l'échec comme un naufrage, mais à l'inverse comme une opportunité de rebond. Rebondir, oui, mais comment ? Telle est la deuxième partie de notre étude aujourd'hui. Attention à la perte d'estime de soi qui est assez courante. Le risque est de se laisser emporter par les émotions très fortes qui nous submergent, le découragement, l'angoisse et surtout la perte de confiance en soi. De toute façon, je suis nul. Et ce qui me choque toujours dans ce genre de phrase, c'est que quand on dit je suis nul, Au fait, le verbe être est ici mis au présent de l'indicatif. Donc ça veut dire que toute notre vie, on est nul. Est-ce que c'est vrai? Je ne pense pas que ce soit cela. Mais c'est peut-être un moment précis, un instant précis, où une certaine nullité, une certaine négativité s'est dégagée de nous. Mais ça ne veut pas dire que depuis que l'on est né, depuis que Dieu nous a mis dans ce bas monde, on est nul. Ce n'est pas ça. Donc très vite, on peut aussi sombrer dans des généralités, mais qui nous font beaucoup de tort. En France, on a souvent tendance à confondre avoir et être. Je n'ai pas le bac, donc je suis nul. Alors que je vaux beaucoup plus que cet échec. Fait remarquer le psychiatre Patrice Heure. La blessure d'amour propre peut être si vive que certains en viennent presque à perdre toute estime d'eux-mêmes, jusqu'au dégoût de la vie. J'ai raté mon bac avec 9,5, a écrit Khalid sur nos forums, donc les forums de ce site. Quelle agonie! Le plus grave, c'est que tous mes amis l'ont eu sauf moi. Je préfère mourir que refaire une année. On arrive des fois dans des propos dégradants. Et cette année, parmi mes apprentis de bac pro, il y en a un. Il se trouve au fait le seul dans la classe. Je ne m'attendais pas du tout à le revoir, mais il a eu à passer son bac l'an passé et puis il ne l'a pas eu. Et puis on a un peu parlé, mais bon, il semble supporter la chose. Mais il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, monsieur, je n'aurai pas à repasser votre matière. Et moi, je lui ai dit, c'est déjà bien parce que j'ai remarqué l'an passé, et ça je ne vous l'ai pas dit, que vous vous êtes mis à travailler quand je vous demandais réellement de travailler. Et quand je vous faisais surtout savoir que là, on était en train de travailler pour les examens du bac. Et c'est à ce moment-là qu'il a bien travaillé. Il a eu, pour quelqu'un qui a l'habitude d'avoir 8 ou 9 sur 20, il a eu, je crois, 12,5 en mathématiques. Et il m'a dit qu'il était plutôt satisfait de cela. Mais malheureusement, il a été au rattrapage et il n'a pas pu... parce que vous savez, le principe du rattrapage, c'est que les points que l'on a, s'ils sont supérieurs à ceux d'avant, il les élimine. Mais lui, il n'a pas pu réaliser cela et donc, du coup, il reprend. Mais bon, c'est pas la fin du monde en même temps, bien aimé. Autre réaction courante, la fuite. De toutes les façons, mes études sont nulles. Je vais tout laisser tomber. On peut fuir, essayer de fuir, aller de loin, sombrer dans des addictions, sombrer dans des choses négatives. Mais ce n'est pas cela qui va arranger les choses. Il nous faudra bien, tôt ou tard, affronter la réalité. Et une première réalité que je peux vous donner, c'est celle-ci. On peut se poser cette question lorsque l'on commence à perdre l'estime de nous-mêmes. On peut se poser cette question. Comment Dieu nous voit? Ça, c'est quelque chose d'important. Et dans la Bible, j'ai trouvé ceci. Juste deux affirmations, bien aimées, et je n'en dirai pas plus. Je suis la créature de Dieu, qui que je sois, que je fréquente une église, que je ne fréquente pas une église, que j'appartienne à une autre confession, que je sois musulman, que je sois juif, etc. Je suis la créature de Dieu. Ça, c'est fondamental. Et la Bible atteste ceci, notamment dans la Genèse, chapitre 1, verset 27. Donc c'est un verset de la Bible que l'on connaît assez bien. Et je vais le lire. Ce passage atteste ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On voit trois fois créa. Comme pour dire aussi que Dieu est trinitaire. Et par trois fois, Dieu affirme ici une vérité irréfutable. Il a créé l'homme. Il a créé l'homme, non pas n'importe comment, à son image. Je suis la créature de Dieu et ce qui est intéressant, c'est que j'ai une certaine ressemblance avec Dieu. Nous avons aussi d'autres passages, notamment en Job chapitre 31, où nous trouvons cette vérité. Donc si vous allez en Job, on est dans l'Ancien Testament. Job chapitre 31. Oui, ça marche. J'avais perdu un peu le fil, mais je l'ai retrouvé. Juste avant les psaumes, normalement. Alors Job chapitre 31, la parole de Dieu affirme ceci au verset 15. Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Ne les a-t-il pas créés? Le même Dieu ne nous a-t-il pas fait? Ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Dieu comme tout homme, Job comme tout homme, il a été créé par une personne, il a été créé par Dieu. Et depuis le ventre maternel, Job était quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Dieu a pris le temps de le créer. Dieu n'a pas bâclé son travail. En 9 mois, Dieu nous a créés. Et nous devons nous rappeler de cela. Il aurait pu nous créer en 1 mois. Mais généralement, quand au bout d'un mois, une grossesse s'arrête, c'est plutôt la mort, c'est le désastre. Dieu aurait pu nous créer de manière très rapide, mais il a voulu prendre tout son temps pour nous spécifier aussi la complexité de notre être, pour nous spécifier aussi la complexité de l'amour qu'il a pour nous. Je poursuis mon propos en Job chapitre 34, verset 4. La parole de Dieu affirme ceci. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si le souffle du Tout-Puissant m'anime, ça veut aussi dire qu'en moi, que je sois chrétien ou pas, j'ai une partie de Dieu en moi, ça c'est magnifique. J'ai le souffle de Dieu en moi. C'est quelque chose de merveilleux. Donc pour cette raison, du fait que je suis la créature de Dieu, je ne suis pas quelqu'un de négligeable. Je ne suis pas quelqu'un qui doit continuer de penser négativement par rapport à moi-même. Je suis une personne qui a une estime et qui est surtout estimée de Dieu. Si j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme son sauveur, comme mon sauveur et mon Seigneur, les réalités bibliques suivantes me concernent aussi. Et le frère Michael a parlé aussi de cela, notamment en Jean chapitre 1er. Et moi, je vais juste évoquer le verset 12. Le frère Ovidio avait aussi fait un beau message là-dessus. Et la parole de Dieu affirme ceci au chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, je poursuis verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De la volonté de Dieu, nous avons été régénérés. De la manière désordonnée dont nous vivons, nous avons été appelés à une expérience, à une existence glorieuse. Donc du fait que nous sommes des enfants de Dieu, nous jouissons aussi de privilèges irréfutables. Et donc par rapport à cela, comment Dieu me voit en tant qu'enfant de Dieu? Ben, il me voit comme un être spécial, comme quelqu'un pour lequel il a de l'amour, beaucoup d'amour, et pour lequel il a investi beaucoup d'énergie. Et la parole de Dieu nous dit cela encore en 1 Jean chapitre 3, verset 1. Et c'est d'ailleurs un verset que l'on retrouve aussi dans certains cantiques, dans certains recueils de chants, sous forme de cantiques. Oh, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Oh, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Qu'est-ce que ce verset affirme? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a point connu. Le plus important pour nous doit être le regard de Dieu sur nous. Alors, attention à la perte d'estime de soi et ne nous laissons pas emporter par cela. Nous sommes des êtres humains, ça peut arriver, mais ça doit être plutôt une situation passagère. J'ai finalement beaucoup d'importance et même trop d'importance aux yeux de Dieu pour que je me laisse aveugler par les émotions suscitées par l'échec. Je suis une personne très précieuse pour le Tout-Puissant. Voilà comment je dois ressortir les traits que je peux ressortir et qui vont me faire beaucoup de bien quand la perte d'estime de soi semble s'emparer de ma personne. Analysez aussi l'échec. Dieu nous a donné de l'intelligence, non pas pour que l'on sombre dans des banalités. Parmi les banalités que j'ai citées, de toute façon, je suis nul. Ou encore, J'ai raté, par exemple, mon bac avec 9,5, et puis c'est l'agonie, c'est la fin du monde. Non, non, Dieu nous a donné beaucoup plus que ça. Puisqu'il est très intelligent, il nous a aussi donné une partie de son intelligence. Et dans les lignes qui suivent, on va voir comment on peut l'exploiter pour avoir l'analyse la plus équilibrée et la plus saine possible de l'échec. Laissez donc un peu de côté nos émotions et efforçons-nous de raisonner. Imaginons l'échec comme une personne, quelqu'un qui se place devant nous et essayons de l'analyser avec toute notre intelligence. Pour quelles raisons avons-nous échoué? L'objectif nous était-il infranchissable? Est-ce que nous étions en dehors de nos limites? Est-ce que nous avions le bon profil pour ce projet? Est-ce que nous étions réellement motivés auprès de mettre toute notre énergie pour justement réaliser cette entreprise? Est-ce que nous avons mis toutes les chances de nos côtés? Répondons franchement à ces questions. Soyons en vérité avec nous-mêmes. En fait, j'avais fait ces études, ça c'est un témoignage, pour faire plaisir à mes parents. Mais je ne les avais pas vraiment choisis. Je n'ai jamais voulu être ingénieur, raconte Alice en échec après 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles. Un gagnant est une personne qui sait choisir ses combats, vous diront tous les coachs. En matière d'études ou de vie professionnelle, il est donc capital de savoir si vous avez choisi la bonne orientation, c'est-à-dire celle qui vous motive et pour laquelle vous avez les compétences et les talents requis, celle pour laquelle vous ne vous sentez pas dépassé, mais vous sentez toujours que vous pouvez donner le meilleur de vous-même. J'ai trouvé ceci concernant un serviteur de Dieu du nom de Rick Warren sur le site Top Chrétien, et il affirme ceci. Il donne 4 étapes à suivre pour recommencer après un échec, mais moi je vais juste vous en citer 3. Il dit ceci. Acceptez la responsabilité de votre propre échec. Évitez en quelque sorte de la rejeter aux autres. C'est trop facile de le faire. Si vous avez commis une erreur, admettez-le. Bienvenue parmi la race humaine. Ne blâmez pas les autres. Blâmer, c'est être faible. Les perdants aiment blâmer la malchance, l'économie, leur patron, leur conjoint, et même Dieu pour leurs mésaventures. Mais les gagnants n'accusent jamais les autres et ne se trouvent pas d'excuses quand ils faillissent. Et là, il y a un témoignage qu'il donne. En 1974, après une série de 88 matchs gagnants, l'équipe de basketball de UCLA perdit contre Notre-Dame dans un jeu qu'il avait mené par 11 points. Le jour suivant, les gros titres des journaux affichaient « L'entraîneur Wooden dit « Blâmez-moi ». Wooden était un gagnant. Et on a ce passage de la Bible que l'on peut prendre pour nous et que je trouve bien à propos. Il dit ceci, et c'est en Proverbe chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Des fois, on a tendance à prendre ce verset-là pour dire aussi que l'on doit s'extérioriser. Je suis d'accord avec vous. Mais dans le contexte présent, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce qu'on doit se cacher à nous-mêmes nos fautes? Ben, si on le fait, au fait, on est toujours devant un mur, hein, on ne voit pas la réalité. Mais le but visé ici par l'application de ce verset, c'est de briser ce mur en étant honnête avec nous-mêmes. Donc l'honnêteté fait partie aussi des voies de succès dans l'analyse de l'échec. Comme deuxième chose ici que nous trouvons, reconnaissez les avantages de l'échec. Ben, c'est difficile de le dire, mais des fois, il y a aussi des points positifs. Par exemple, cela vous montre ce qui ne fonctionne pas. Pensez à Thomas Edison qui, vous le connaissez très bien, il a multiplié des échecs pour arriver à produire la lumière. Il a multiplié des essais pour arriver à produire la lumière. Et ils étaient tellement nombreux qu'au finalement, il y a juste un seul de ces tests qui a produit la lumière. Et au fait, il a affirmé qu'il a, il n'a pas totalement échoué, dans le sens où il a découvert, sur son test par exemple, 99 façons de ne pas produire la lumière. C'est une bonne façon de tourner les choses. Autrement dit, si vous voulez faire de la lumière, ben ne suivez pas ces 99 tests qui ont échoué, mais choisissez juste un seul. Cela nous oblige à être plus créatifs. Vous cherchez de nouvelles options. Vous essayez de vous dépasser de vous-même. Et par la grâce de Dieu, bien évidemment. Cela empêche l'arrogance et l'égoïsme. Et J'aime bien aussi Paul qui affirme qu'il peut tout par la grâce. Ça veut dire que ce n'est pas lui-même qui œuvre, et ça c'est bien. Supposez que vous entreprenez les choses et que vous passez tout votre temps à réussir. À un moment donné, on peut être enflé d'orgueil. Mais lorsqu'on échoue aussi des fois, même si ce n'est pas sans doute la volonté de Dieu que l'on souffre par l'échec, mais ça nous ramène aussi sur terre et ça nous permet de constater qu'on n'est pas tout puissant et qu'on dépend aussi des autres et surtout de Dieu. Cela nous entraîne à évaluer aussi à nouveau ce qui est important dans nos vies. L'échec est un des moyens que Dieu utilise pour que nous réfléchissions à la direction de nos vies. Les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal, et les coups que l'on reçoit purifient l'être intérieur, nous dit Proverbes chapitre 20, verset 30. Demandez à Dieu de la sagesse pour comprendre les causes. Des fois, on n'arrive plus à dormir et on essaye de réfléchir, et puis on peut même aussi contacter d'autres personnes, mais on n'a toujours pas des solutions. Mais je pense aussi que la première personne que l'on peut contacter en cas d'échec et lorsque les choses commencent à nous dépasser, c'est Dieu. Parce que Dieu n'est jamais dépassé par ce qui nous arrive. Pourquoi ai-je échoué? Y a-t-il une raison pour laquelle j'aurais provoqué mon propre échec? Il y a parfois des raisons inconscientes par lesquelles nous sabotons nous-mêmes nos propres efforts. La peur du succès. Le succès peut vouloir dire avoir plus de responsabilités que je ne veux en avoir. Il y a aussi autre chose, la culpabilité. Si vous avez l'impression que vous ne méritez pas le succès, vous avez peut-être provoqué votre échec. Le ressentiment. Certaines personnes échouent pour se venger de ceux qui font pression sur eux pour qu'elles réussissent. Ça peut aller très loin dans ces choses-là. Il y a eu, par exemple, une année où je faisais mes études et puis je connaissais un ami qui était du côté de Caen. Et je crois qu'il devait tellement avoir marre de la pression que ses parents mettaient sur lui que malheureusement, il n'était pas chrétien. Je pense, j'en suis convaincu. Parce que finalement, il a décidé de couper court et d'abréger son existence. Mais lorsque l'on comprend que c'est Dieu qui nous a fait, on ne peut pas se permettre nous-mêmes de décider de notre vie. Si Dieu nous a créés, c'est que nous sommes précieux et donc nous devons aussi précieusement nous gérer. Si de telles pensées nous arrivent, il faut automatiquement qu'on rejette cela parce que c'est clair que ce n'est pas la volonté de Dieu. On peut avoir très mal au-dedans de nous, à la limite, déplaçons-nous, allons-y voir un parent, pleurons à côté de cette personne, mais... Ne laissons pas de telles pensées agir dans notre corps. Vous savez, les pensées sont en haut, mais je crois que c'est facile pour les pensées aussi lorsqu'on leur ouvre certaines portes et qu'on leur laisse une certaine amplitude, c'est facile que ces pensées-là deviennent des actions. Mais là encore, c'est nous. Ces pensées sont en nous, ces pensées ne sont pas dans une autre personne. Et donc, c'est nous-mêmes aussi qui pouvons arrêter ces pensées-là par la grâce de Dieu ou en se mettant aussi... dans la présence d'autres personnes, de chrétiennes notamment, ou en séjournant chez un parent qui, nous savons, aura sans doute un regard plus minutieux sur nous. Mais lorsque nous sommes vraiment gagnés par de vilaines pensées comme ça, des pensées suicidaires, des pensées très négatives, ne restons pas seuls, hein, bien aimés. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, mais il y a une personne qui s'était confiée à nous et puis qui... Elle était harcelée par son compagnon, mais elle a eu l'intelligence l'astuce de ne pas rester toute seule, parce que cette personne commençait à être agressive et puis très violente avec elle, et elle s'est réfugiée chez une amie de confiance, une amie d'enfance avec qui elle avait fait le collège, et puis c'est à partir de là qu'elle a commencé à émerger et à trouver un autre logement. Cette personne répondait au prénom de... Elle s'appelait Anne-Marie. Et puis j'avais fait un témoignage là-dessus. Et même maman Colette et puis Lucie avaient aussi la possibilité de la contacter parce qu'elle était ouverte hein, par rapport à cela. J'espère que par la grâce de Dieu, elle se porte mieux, cette personne. Et bien aimé, dans la Bible aussi, il y a toute une catégorie d'échecs que l'on peut qualifier de formateurs. Rappelez-vous cette définition de l'échec. Qu'est-ce que l'échec? On a vu ici que l'échec, c'est le résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, d'un manque de réussite. Mais plusieurs personnes aussi dans la Bible ont essuyé des échecs. Je pense notamment à Pierre dans le Nouveau Testament. Pierre, c'était un pêcheur professionnel. Et vous savez que les pêcheurs se nourrissent du fruit de la pêche, donc des poissons, etc. Et pourtant, à un moment donné de sa vie, il lui est arrivé de pêcher et il n'a rien attrapé. Et cet épisode, on le trouve dans la Bible. Et dans la Bible, il faut que l'on aille en Luc au chapitre 5. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Et en Luc chapitre 5, nous pouvons lire, j'allais dire le verset 5. La parole de Dieu affirme ceci. Simon lui répondit, Maître, donc des fois on dit Simon Pierre, hein, bien aimé, Maître lui répondit, Simon lui répondit, Maître, donc il s'adressait à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc il fait confiance à Jésus. Il jette le filet et qu'est-ce qui se passe? L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il a eu un échec parce qu'il n'a pas pu attraper des poissons. Mais ce jour, Dieu l'avait sans doute prévu à l'avance et c'est le jour où il allait rencontrer Jésus-Christ. Et pensez un peu à toute la transformation que cette rencontre a produite dans la vie de Pierre. N'est-elle pas ici, cette rencontre, un type d'exemple d'échec formateur? On croit avoir échoué, mais au-delà de l'échec, Dieu utilise cela pour produire quelque chose de précieux en nous. Il en était de même, en Luc chapitre toujours 5, verset 10, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Et par la suite, vous connaissez très bien la parole de Dieu, le zèle de Pierre pour annoncer la parole, notamment aux Grecs, donc aux personnes qui n'étaient pas juives. Et puis, on bénéficie vraiment, notamment en 1 Pierre et en 2 Pierre, de ces conseils précieux que le Saint-Esprit lui a donnés. Nous avons aussi l'exemple de Paul et Silas. À deux reprises, Paul et son équipe, donc là, l'épisode est raconté en Actes chapitre 16. À deux reprises, Paul et son équipe, composée notamment de Paul et Silas, ont été empêchés d'annoncer la parole dans l'Asie afin de les orienter vers l'Europe par une vision. La vision se trouve en Actes chapitre 16, versets 6 à 10, mais on ne va pas la lire. Mais convaincus de la direction du Seigneur, et pourtant, ils se sont retrouvés dans la prison de Philippe. Ils ont une entreprise, ils veulent aller normalement en Europe. Au final, ils se trouvent en prison, mais c'est quand même dur. Il y a une différence entre la liberté de pouvoir aller, de servir le Seigneur en Europe et la prison où on est privé de liberté. C'est carrément deux mondes différents. Mais la suite, qu'est-ce que la suite nous dit? Échec dans l'évaluation de la volonté de Dieu? Non, ce n'est pas ça. Dieu contrôle toutes choses. Il fait aboutir son plan. Un exemple en Proverbes chapitre 19, verset 21. Et donc, d'ailleurs, Paul, c'est lui-même qui l'a dit, comme je vous disais précédemment, que c'est plutôt par la faiblesse que la puissance de Dieu se révèle en nous. Et je pense aussi que nous, chrétiens, puisque chrétien vient de Christ, ça veut dire aussi que nous sommes les disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à le suivre. Je crois aussi que Dieu, à certains moments dans la Bible, nous a préparés à d'éventuels échecs, notamment comme il a pu le faire avec ses disciples. Allez-y avec moi en Matthieu chapitre 10. Et on va considérer trois versets de sa parole. Matthieu chapitre 10. Et puis nous trouvons ceci. Matthieu chapitre 10, verset 13. Bon, les recommandations que Jésus-Christ donne à ses disciples commencent beaucoup plus loin. Mais moi, je m'arrête juste au verset 13. Alors, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas, et qu'on n'écoutera pas vos paroles. Le but, c'est d'écouter la parole de Dieu annoncée par les disciples de Dieu. Mais à des moments, ils vont rencontrer des obstacles. Donc, ça va être des échecs apparents. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Les disciples de Dieu, quand ils vont pour annoncer la parole, c'est vrai, on veut que tout le monde entende notre parole et puis se convertisse à Christ. Mais des fois aussi, ça ne se passe pas ainsi. Mais est-ce que nous avons respecté notre engagement? Oui, si nous sommes allés annoncer la parole. Est-ce que la personne s'est convertie à Christ? Si elle ne s'est pas convertie à Christ, mais sachant aussi que la parole de Dieu est une force. Elle ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet. Peut-être que nous, ce que l'on voyait tout de suite, c'était que la personne se convertisse à Christ, mais nous ne sommes pas à l'intérieur de cette personne et nous ne savons pas si à l'intérieur de cette personne, la parole de Dieu n'a pas commencé à remporter des succès, à savoir que la personne commence déjà à se poser des questions, à savoir que la personne commence à entreprendre peut-être sérieusement de se rapprocher de Dieu, de se rapprocher d'un chrétien et de vouloir davantage entendre parler de Dieu. Ces choses-là, on ne les connaît pas, mais la parole de Dieu travaille en nous. Et je crois aussi que par ces paroles-là, Dieu voulait aussi dire que certainement nous allons avoir des échecs. Mais ne soyons pas tristes, nous avons le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit œuvre aussi à nos côtés pour nous instruire, pour nous montrer aussi que si on analyse l'échec qui semble très grand devant nous, mais à l'intérieur de cela, il y a déjà des succès. Le fait qu'une maison accepte déjà d'entendre parler de vous, c'est déjà bien. On ne sait pas ce que la parole de Dieu va faire. Et maintenant, j'aimerais apporter cette dernière chose. Donc, comment rebondir pour aller plus loin? Aller de l'avant et dépasser le cap de l'échec pour construire quelque chose de nouveau. J'ai plusieurs recommandations ici. J'en ai quatre au total. Et la première est celle-ci, et je l'ai déjà dit avant. Ne pas rester seul. La parole de Dieu est claire à plusieurs niveaux, notamment au Proverbe chapitre 3, verset 5. Elle affirme ceci, Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Si je ne m'appuie pas sur ma sagesse, ça veut dire que je m'appuie sur la sagesse d'une autre personne. Et s'appuyer sur la sagesse d'une autre personne consiste aussi à dévoiler ce que je veux entreprendre à cette personne. En cela, je ne reste pas seul, mais je reste plutôt dans la présence de Dieu. Je ne compte pas sur mes propres forces limitées, mais je compte sur des forces qui n'ont pas de limites, les forces de Dieu. Pour reprendre confiance en nous, il faut nous appuyer sur nos points forts, notamment sur nos qualités, sur nos succès antérieurs, que l'échec a tendance à anéantir, que l'échec a tendance à réduire au néant, puisque ce que l'on reçoit généralement comme pensée intérieure négative, c'est que nous sommes nuls et que nous n'avons peut-être jamais connu de succès, que nous n'avons rien entrepris de bon et que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent était nul. Ça, c'est le genre de réflexion que l'on peut avoir intérieurement. Pour nous aider à dépasser ce cap, il faut que l'on repense à ce que nous avons réussi, à ce que Dieu nous a permis d'accomplir, aux qualités que nous avons, que beaucoup de personnes ont reconnues. J'aime voir cela en toi, j'aime ceci. Et bien aimé, des fois c'est important aussi d'être véridique avec les personnes qui nous entourent et de reconnaître les qualités de ces personnes. Je pense à quelque chose que mon épouse a vécu et qui lui a fait beaucoup de bien. Dans l'ancien travail où elle était, à chaque fois, on cassait les personnes. Tu ne sais pas faire ceci, tu ne sais pas faire cela, ce que tu fais, c'est mauvais, c'est mal, etc. Et on entendait rarement des personnes dire de bonnes choses. Et là, dans son nouveau travail à Pôle emploi, où elle s'occupe aussi des formations, s'étant donnée à fond pour plusieurs dossiers de ses collègues, en passant des fois dans des bureaux, elle a été arrêtée par des collègues, certains de ses responsables qui lui ont dit « C'est très bien le travail que tu fais ». Vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir passé beaucoup de temps sur ce dossier. Tu as permis de faire avancer le dossier. Et quand elle me l'a dit, mais j'étais très ravi pour elle. Et puis, j'ai dit vraiment gloire à Dieu. Parce que de réentendre ces choses-là, ça peut paraître des toutes petites choses. Mais quand on le dit honnêtement pour une personne qui a été tout le temps rabaissée ou régulièrement rabaissée, ça fait beaucoup de bien. Ça nous redonne de l'estime. et on se dit, tiens, je vaux autre chose que je suis nul, je ne fais pas ceci, cela. L'idéal est de faire ce travail avec une personne extérieure. Dans le cadre professionnel, on a aussi des fois des conseils d'orientation. Et moi, je ne savais pas cela, mais apparemment, à Rouen, il y a des centres d'orientation et il y a même des endroits où l'on peut passer des tests de personnalité, des tests de compétences et on ne paie pas grand-chose, c'est gratuit. Et après, on peut même aussi s'entretenir avec des conseillers d'orientation. Et tout cela, c'est certainement dans le but de nous aider à repartir de l'avant, à mieux considérer notre personne et puis à mieux entreprendre pour l'avenir. Il ne faut pas rester seul face à l'échec, insiste justement une personne du nom de Isabelle Stokelet d'Argent. Au contraire, certaines personnes peuvent vraiment vous aider et il ne faut pas qu'on se prive de cela. Surtout lorsque l'on connaît aussi le parcours de ces personnes, notamment lorsqu'on connaît aussi des personnes qui sont passées par des échecs. Construire un nouveau projet. Mais je précise quelque chose, ce n'est pas de se hâter. Il faut que la construction de ce projet-là soit précédée par une analyse sérieuse de l'échec. Dieu a de bons projets pour nous, qu'il nous a fait connaître aussi d'une manière ou d'une autre. Il le déclare notamment à Israël par la personne de Jérémie, et vous connaissez bien ce passage en Jérémie chapitre 29, verset 11. J'aimerais relire ce passage-là parce que des fois aussi, lorsque l'on est dans l'échec, on oublie beaucoup de choses. Et rappelez-vous aussi de ce cantique de la parole de Dieu qui nous dit « Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire ». Donc on a besoin des fois d'entendre et entendre et entendre certaines choses pour que nous puissions vraiment les ressaisir et se les réapproprier. Et cela pour notre plus grand bien. La parole de Dieu affirme ceci en Jérémie chapitre 29, verset 11. Elle affirme ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. » Ça veut dire que l'on doit venir auprès de Dieu pour connaître ces projets que l'on ne connaît pas. Et beaucoup d'expériences que plusieurs personnes parmi vous ont vécues, c'est que des fois on s'engage dans des projets et lorsqu'on est honnête, Dieu ferme des portes et Dieu ouvre des portes aussi. C'est la preuve que Dieu ferme des voies pour nous conduire sur d'autres voies. Et il faut que l'on soit aussi attentif à cela. Après mon échec en médecine, raconte une personne du nom de Tiffaine, j'ai fait un bilan avec un conseiller d'orientation. Je me suis rendu compte que j'avais finalement peu de goût pour les matières scientifiques, mais une forte motivation sociale. Je me suis orienté vers un DUT carrière sociale et je pense passer le concours d'assistance sociale, un métier qui me convient finalement bien mieux que la médecine, même si au départ, il n'y avait que cela qui m'attirait. Des fois, on a besoin aussi de passer par l'échec pour mieux analyser les choses et puis ressortir quelque chose de meilleur en nous. Il faut aussi que l'on arrive à oublier le passé et à se concentrer sur l'avenir. Quand je parle d'oublier le passé, je parle d'oublier les situations chaotiques que nous avons vécues qui ont justement découlé de l'échec. Alors, ce même serviteur de Dieu du nom de Rick Warren dit ceci, « Votre passé est passé. » C'est le passé. Le passé, c'est ce qui passe, c'est ce qui ne reste pas là. Donc, le passé, c'est passé. J'aime bien cette définition-là. « C'est de l'eau sous le pont. » Et on sait très bien que l'eau sous le pont ne reste pas là. Au bout d'un moment donné, on ne voit plus de l'eau. Et c'est le principe du passé. Vous ne pouvez pas le changer. Alors vous pouvez aussi bien arrêter de vous en préoccuper. Pour pas que ce soit quelque chose dans ma tête qui aille jusqu'à me donner des maux de tête. Oublions ce qui est derrière moi. Étendons toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course. On trouve cette phrase en Philippiens chapitre 3, verset 13. Vous savez aussi que Paul, il a couru. Et même si il pouvait trouver des embûches dans sa marche, il n'a pas arrêté de courir. Et d'ailleurs, des fois, on compare le parcours de Paul à celui d'un athlète. Et pourtant, quand on regarde sa description physique dans la Bible, on se rend compte que ce n'était pas Usain Bolt ou une personne très impressionnante. Mais elle avait le comportement et le caractère d'un athlète dans sa marche avec le Seigneur. Il faut aussi que l'on apprenne à élargir nos horizons. Les parcours réussis sont souvent aussi semés d'échecs. interrogeant les seniors, les personnes qui nous entourent et qui sont épanouies dans leur travail, par exemple, nous serons étonnés sur la leur parcours assez atypique. En matière professionnelle, il nous faut cependant élargir nos horizons et nous dire une fois pour toutes qu'il n'y a pas qu'un métier fait pour nous, mais que nos qualités peuvent correspondre à plusieurs secteurs professionnels. Donc si nous ne voulons pas faire quelque chose, ne nous enfermons pas dans cette chose au point de ruiner notre santé pour cela, mais essayons de voir au-delà, essayons de voir autre chose. Et j'arrive à la fin de mon message, mais pour vous dire, je suis assez ravi de pouvoir analyser de cette façon-là l'échec, parce que moi-même aussi, j'ai vécu un échec, mais c'était au mois, je crois, de juillet. Mais j'ai essayé de passer un concours et puis je ne l'ai pas obtenu. Alors, je n'ai pas passé beaucoup de concours dans ma vie, bien-aimée. J'ai juste passé un seul concours, excepté celui-là. C'est le concours d'entrée en sixième. Donc, il y a de cela maintenant des années, plus de 20 ans. Et ce concours, je l'ai brillamment réussi. Et vous savez, malgré tout ce que Dieu m'a permis de faire comme étude, je demeure quelqu'un de très, très, très allergique aux concours. Au fait, je déteste, mais foncièrement, les concours. Pourquoi je déteste foncièrement les concours? Parce que dans les concours, il y a toujours cette concurrence, on prend les meilleurs, etc. Et c'est quelque chose qui m'énerve. Mais je me suis dit, pourquoi pas, il faut essayer. Et donc, je me suis inscrit à l'université, même si je deviens très allergique aux cours, mais je vous précise, je suis un enseignant, donc c'est peut-être paradoxal. J'enseigne à des personnes d'aimer les études, alors que moi-même, je suis allergique aux études. Mais je m'explique, je suis allergique aux études parce que j'en ai tellement fait que je suis fatigué d'étudier. Donc je poursuis mon propos. Et donc au final, ça c'est vraiment le mauvais élève. J'ai dépensé de l'argent pour préparer ce concours-là, mais au final, je n'ai pas eu le temps de réviser, etc. Et puis ça me fatiguait tellement que quand j'ai reçu le papier du concours, j'ai eu la pression, comme le frère Laurent disait, pression. Je me suis dit, oula, il faut que j'ouvre vite les choses, j'essaye de réviser tout ça. Et puis au final, ça s'est soldé par un échec. Mais je comprends pourquoi j'ai échoué. Je n'ai pas eu de temps pour réviser. Et même si ça semblait être dans mon domaine, et puis même si j'ai dépensé de l'argent pour aller passer le concours, mais au final, je n'ai pas quand même mis toutes les chances de mon côté. Et puis, c'est quand même assez logique que je puisse rater. Qu'est-ce que je peux tirer de cela? C'est que, quel qu'en soit le niveau de formation que l'on peut avoir, il faut quand même s'efforcer de bien faire les choses, de bien réviser, etc. Et puis, finalement, je crois que personne ne nous met de la pression pour passer n'importe quel concours. Donc, si on n'a pas envie de passer le concours, on ne le passe pas. Simplement. L'autre chose aussi qui m'a un tout petit peu fait mal et puis que je ne voulais pas du tout, c'est que quand vous passez les concours, vous ne parlez pas beaucoup aux gens. Parce que au final, les gens vont vous dire, est-ce que tu as réussi? Comment ça s'est passé? Tout ça. Donc ça, ce sont des questions difficiles. Et au fait, à un certain niveau, j'ai été admissible. Donc je me suis dit, oui, c'est bien, maintenant que je suis admissible, je peux dire, je ne vais pas me présenter aux deuxièmes épreuves. Comme ça, même si je pars avec mes honneurs, même si je ne me suis pas présenté, même si je n'ai pas échoué, c'est pas grave. J'ai moi-même décidé de ne pas me présenter. Donc ça va, il n'y a pas de problème. Et au fur et à mesure que le temps passait, les collègues de travail m'envoyaient des messages. Ils me disaient, mais Jerry, comment ça en est, tout ça? Et puis je leur disais, mais non, vous savez, je suis tellement mal préparé que je ne vais pas y aller. Et ils me disaient, mais non, mais il faut quand même que tu y ailles. Qu'est-ce que tu vas perdre? Je me suis dit dans ma tête, ils ne savent pas que j'aurai la route à faire, que j'aurai l'argent de l'hôtel, que j'aurai l'argent du carburant, que je vais laisser ma famille. Et c'est beaucoup d'argent que je vais quand même dépenser. Au final, je suis allé et puis ils m'ont demandé après, et alors, c'est quoi les résultats? Oh là 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 là, je me suis senti mal. Et puis j'ai quand même répondu et puis j'ai dit que j'ai échoué. Mais après, d'autres m'ont donné des conseils et ils m'ont dit, mais tu sais, généralement, on ne réussit pas la première fois. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et d'autres personnes m'ont dit, tu as déjà été admissible sans avoir préparé ce concours, donc c'est déjà un succès. Et maintenant, je rends grâce à Dieu parce que Au-delà de l'argent que j'ai pu dépenser, j'ai été comblé d'une autre façon et puis je ne m'attendais pas du tout à cela. C'est Dieu qui accomplit aussi les choses dans sa vie et puis il permet aussi de recadrer les choses. Est-ce que ça sert des fois à quelque chose de beaucoup courir derrière des perspectives professionnelles? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de peut-être réparer les choses que l'on ne fait pas dans sa vie? J'ai été surpris par des choses que je croyais bien faire, mais au fait, je ne les faisais pas bien. À un autre moment, bien avant cela, et après, je vais apporter la conclusion que j'ai retenue au message, je faisais des recherches dans un domaine, dans l'automatique, et j'étais vraiment dedans. Mais je ne savais pas aussi que je délaissais ma famille. Et une fois, Céline m'a dit ça, mais j'avais pas encore vécu vraiment la chose. Et une fois, je me promenais avec Guyane. C'était une promenade classique où on avait l'habitude de se prendre dans la main, tout ça. Et à un moment donné, je l'ai attrapé. Et puis, il n'a pas voulu ma main. J'ai essayé de le réattraper. Il n'a pas voulu. Et il est parti. Il était à côté de moi. Et il est allé à côté de Céline. Et puis à ce moment-là, j'ai compris au fait que dans ce que je poursuivais, qui était aussi bien, faire de la recherche dans l'automatique, c'est bien, mais que certainement j'avais été tellement à fond là-dedans que j'avais négligé ma famille. Mais la parole de Dieu atteste aussi qu'il ne faut pas négliger sa famille, et si on néglige sa famille, on n'est pas bien. Mais j'ai essayé de combler cela, et c'est toujours une course, vous savez, c'est toujours une course, mais. Par vos conseils aussi, en voyant des frères, notamment aux vidéos, en voyant aussi le frère Gilles et puis d'autres, on apprend beaucoup de choses par les témoignages. On apprend que ben, il y a des choses sans doute qui peuvent être mises de côté et puis on peut toujours revenir quand on veut et on ne court pas après le temps. D'ailleurs, personne ne va venir nous dire est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu n'as pas fait cela. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous mettons de la pression. Des fois, essayons de souffler et puis. Demandons aussi beaucoup de sagesse à Dieu, et je crois qu'à ces moments-là, j'ai manqué de sagesse. Mais la parole de Dieu est là pour nous rappeler plusieurs choses. Les choses que j'ai voulu vous partager aujourd'hui, notamment l'échec. Apprendre à ne pas perdre l'estime de soi. Apprendre à analyser l'échec, et puis ne pas sombrer dans des généralités banales qui nous font plus de mal. Apprendre à rebondir aussi avec les moyens que Dieu met à notre disposition. Et puis, comme retenons aujourd'hui, je peux nous laisser ceci. Si nous échouons, ce n'est pas la fin de tout. C'est dans la Bible. La Bible affirme ceci. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Même les bons connaissent parfois l'échec. C'est dans la Bible. Le psaume 34, verset 19 dit ceci. Le malheur atteint souvent le juste. Et si nous avons été justifiés en Jésus-Christ, c'est que nous sommes des justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel est toujours près de lui pour le secourir. Ne laissez pas l'échec vous décourager. Ça aussi, c'est dans la Bible. Notamment en Josué chapitre 1er, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras. Nous pouvons réussir la prochaine fois. C'est aussi écrit dans la Bible, Philippiens chapitre 4, verset 3. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Paul qui affirme cela. Et en guise de complément à ces propos, Dieu est trop bon pour faire du mal aux hommes. Dieu ne prend pas plaisir à faire du mal à sa créature. Ce serait un non-sens vis-à-vis de sa personne. Il permet néanmoins la souffrance ou les échecs afin de faire aboutir son plan divin, connu de toute éternité pour le croyant. Sachant discerner quelle est la volonté de Dieu pour notre vie et acceptant le fait qu'il vise une position glorieuse et exceptionnelle pour chacun de nous. Nous pouvons trouver notamment une référence en Hébreux chapitre 3, verset 11. Je préfère finir ce moment par une prière. C'est ce qui me fait plus de bien lorsque je suis au profond de moi, au plus profond de moi dans le gouffre. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous ne savons pas beaucoup de choses. Nous ignorons beaucoup de choses. Nous ignorons des fois combien tu nous aimes. Nous tombons dans l'oubli quand nous sommes acculés par l'échec. Nous voyons des tableaux noirs devant nous et des fois beaucoup de mauvaises pensées. Mais par la grâce que tu as commencé à déverser en nous par ton Saint-Esprit, nous pouvons émerger. Nous ne sommes pas prisonniers de l'échec, Dieu Tout-Puissant. Et les frères et sœurs qui nous entourent aussi sont là pour témoigner de ton action dans leur vie. Oui, Seigneur, je te rends grâce de m'avoir donné du temps de pouvoir réfléchir sur ces paroles. Comment triompher de l'échec? Merci, Seigneur, car tu nous apprends aussi par ta Bible, par ta parole, qu'il y a plusieurs de tes serviteurs qui ont connu l'échec. Et donc, si ça m'arrive, c'est que je ne suis pas le premier. Mais tu ne veux pas, Seigneur, que je reste dans cette situation d'échec. Tu veux sans doute que j'émerge. C'est pour cela que je te prie, Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions avoir la force, avoir le courage de te prier pour connaître comment tu veux nous sortir de l'échec. Avoir le courage aussi de te prier pour que tu nous orientes vers peut-être une personne de la salle, vers peut-être une personne de notre famille, vers peut-être un conseiller en orientation professionnelle, pour que nous ayons la bonne orientation et la bonne solution. Ce point d'ancrage, Seigneur, qui va faire basculer notre échec vers la réussite. Merci, Seigneur, pour toutes choses, car c'est encore toi qui nous as parlé. C'est encore toi qui nous as convaincus que tu es ce Dieu bon qui nous a créés et qui ne peut pas nous vouloir du mal. C'est pour cela que, Seigneur, ta parole affirme avec véracité que tu connais les projets que tu as formés pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner une espérance et un avenir glorieux. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, pour ta parole, pour ce beau dimanche que tu nous donnes. Et sois béni, sois vraiment béni, Seigneur, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je laisse la place à mon frère Michael.